silence. Attention, attention, petit collègue, ça a bien coupé votre micro quand vous ne vous exprimez pas. Attention, attention. Alors, effectivement, ce soir, on a deux juristes avec nous. Incroyable. Alors, vous l'avez vu, il fallait au moins deux juristes par rapport au sujet de cette émission, j'ai envie de vous dire. Parce que le sujet, c'est quand même Maréchal, nous voilà. Hein. C'est pas rien. C'est, on va parler de la messe, on va parler de plein de choses. Vous allez voir, c'est super intéressant. Du fameux Monsieur Hazard, le maire de Verdun. On va parler de plein de choses. Ça va être très intéressant. Et pour l'instant, il n'y a qu'un invité sur dos, à savoir Pierre-Nicolas Nupes, qui est présent avec nous, qui est juriste, qui est membre du Parti de la France, secrétaire général du Parti de la France. Bonsoir Pierre-Nicolas, comment allez-vous ?
Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, ça va très bien, je te remercie. Et content de te revoir, parce que ça commence à remonter la dernière émission. Je suis ravi que tu m'invites aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est exceptionnellement le lundi, donc ça va sûrement se répercuter sur le nombre de vues, hein. J'en suis désolé. Mais est-ce qu'on a, on fait jamais le lundi, David ? On fait jamais. Mais en fait, jeudi soir, j'ai eu un accident de voiture, je vous ai parlé du détail, mais en gros, j'ai pas pu me rendre à 21h, donc exceptionnellement, c'est la première fois qu'on l'a décalé. Première fois en 3 ans, hein, ça va les gars, ça va. Tout à fait. Et en plus, oui, donc Pierre-Nicolas Nupes, je pense que vous avez vu son fameux reportage directement à Verdun. Il y a plus de 8000 vues en une semaine. J'en suis très content, 8000 vues. Donc, magnifique reportage. Hein. Bravo Pierre-Nicolas Nupes pour vos interventions.
Et merci aussi à celui qui l'a mis en montage.
Et merci aussi à Maxime Morlon qui a tourné. Voilà. Et à moi-même pour la miniature et le montage. Tout à fait, tout à fait. Et il nous manque un invité sur deux. Il nous manque un invité sur deux. Il est où, Maître Bonneau ? Maître Bonneau, qui je rappelle, qui est au Parti des Nationalistes, évidemment, de Yvan Benedetti, qui est aussi notre avocat, qui est aussi juriste, évidemment, puisqu'il est avocat, c'est logique. Hein, l'un va avec l'autre, j'ai envie de dire. Donc oui, il est avec nous ce soir, normalement, mais je ne le vois pas. Mais il va arriver incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. On va meubler en attendant qu'il arrive. De toute façon, ma première question, elle s'était adressée, elle était pour Pierre-Nicolas, hein, donc ça tombe bien. Ça pourra mettre le contexte, justement. Le contexte du thème de cette émission. Alors, mon cher Pierre-Nicolas Nupes, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qui s'est passé à Verdun le 15 novembre dernier ?
Bien sûr. Il y avait une messe pour le maréchal Pétain qui était prévue comme depuis un peu plus de 50 ans, 51 ans pour être précis. Tous les ans, il y a une messe pour la mémoire du maréchal Pétain. Une messe à laquelle ont participé notamment d'anciens présidents de la République. D'autres ont fleuri sa tombe au moins jusqu'à Mitterrand. Et cette année, alors que cela se passait habituellement sur d'autres sites, notamment au mémorial de Douaumont, à l'ossuaire de Douaumont, cette année, la messe devait se dérouler dans la commune de Verdun. Et le maire, M. Hazard, a pris un arrêté d'interdiction parce qu'il s'arroge le droit de déterminer qui a le droit de recevoir une messe pour le salut de son âme ou pas. Évidemment, cet arrêté a été retoqué, a été suspendu, annulé par le tribunal administratif de Nancy, qui a ordonné aux autorités de faire en sorte que cette messe puisse se maintenir dans le calme. Et malgré tout, eh bien, un certain nombre de pèlerins ont été empêchés, notamment par des cordons de policiers qui ont été déployés par on ne sait qui actuellement, hein, dont nous allons y revenir, parce que moi j'ai demandé une enquête à l'IGPN pour déterminer qui a déployé ce cordon de policiers qui a empêché des personnes de pouvoir accéder à la messe. Et j'ai fait partie des personnes qui ne pouvaient pas accéder à la messe, ainsi que M. Massol, le fils de Hubert Massol. Voilà, donc nous avons l'intention de déposer une plainte. J'ai déjà fait une demande indemnitaire auprès du préfet de la Meuse et j'ai l'intention de poursuivre également au pénal, mais pour cela, j'ai demandé une enquête à l'IGPN pour déterminer la chaîne de responsabilité. Et il se trouve qu'au bout d'une semaine, eh bien, M. Hazard a dit que ce n'était pas de sa faute, que c'était le préfet qui a déployé ce dispositif et que lui n'était absolument pas responsable. Ce qui courtoisement s'appelle se défausser sur plus haut placé. Et dans certains autres milieux, eh bien, on appelle ça être une petite balance. Voilà, mais je ne me permettrai pas puisque je ne fais pas partie de ce genre de milieu. Voilà, ça c'est pour la petite péripétie juridique.
Vu les commentaires en direct que nous avons, je commence à me demander si démocratie participative nous fait pas un raid. Il y a que des références à démocratie participative dans les commentaires. Donc je sais pas s'il a partagé le lien de cette émission. Soyez les bienvenus. Hein, écoutez, soyez les bienvenus. On va
Bien
pas faire.
sûr,
Bah oui.
bienvenue, bienvenue.
Bah bienvenue, vous êtes chez vous, hein, j'ai envie de vous dire. Vous êtes chez vous.
Nous ne
Bah écoutez.
pouvons malheureusement, contrairement à démocratie participative, qui d'ailleurs est interdit d'antenne, c'est évident, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir autant de liberté de ton, puisque un rien, nous conduit au tribunal, voire éventuellement en prison.
Excusez-moi, j'avais pas de micro. Oui, donc je disais, je vais reposer une seconde question, mon cher Pierre-Nico Anups, parce que Pierre-Marie Bonneau n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, mais il m'a appelé il y a quelques minutes. Hein, je sais qu'il arrive. Je sais qu'il
Il va
arrive.
venir.
Il va
Il va
venir. Il n'y a
venir.
pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, je vais quand même vous poser quand même, voilà, une question, mon cher Pierre, mon cher Nicolas Anups. C'est très simple. La décision du préfet de barrer l'accès à l'église. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est légal en sachant qu'elle. Ah bah attendez, il y a Pierre-Marie Bonneau. Il est là.
Pierre-Marie Bonneau, il est là.
Oui, c'est assez complexe parce que j'étais sur d'autres dossiers au bureau.
Pas de souci.
Pas de souci.
Ah, juste par contre, on m'entend en écho.
Je
Juste, il faudra
t'entends
bien
assez
couper.
faible, Pierre-Marie.
Faudra couper le micro quand je parle, enfin quand vous parlez pas, Pierre-Marie
Quand
Bonneau.
vous parlez pas, Pierre-Marie Bonneau.
Bon, en attendant que Pierre-Marie règle ses problèmes de micro, je vais tout de suite intervenir sur la question que tu m'as posée.
Allez-y.
Pour l'instant, nous n'accusons pas le préfet d'avoir déployé ce dispositif pour faire obstacle à ce que des pèlerins puissent se rendre à la messe. J'ai demandé une enquête à l'IGPN, elle n'est pas encore terminée, et je ne vais pas prendre ce que dit le maire pour argent comptant, puisque je rappelle tout de même que le maire avait déclaré aux grandes gueules de RMC qu'il serait présent le jour de la messe, quand bien même, avant même que la décision de justice soit rendue, la décision du tribunal administratif. Il avait dit qu'il serait présent ce jour-là pour faire rempart de son corps afin d'empêcher les personnes de se rendre à la messe. Et il a ensuite juré ses grands dieux, notamment sur BFM TV, en disant que, quoi qu'il arrive, eh bien, les portes de l'église seraient closes. Et en l'espèce, elles l'étaient. Donc je ne prends pas, ce que dit le maire de Verdun pour argent comptant. L'enquête devra déterminer pourquoi les portes de cette église étaient fermées et pourquoi il y avait des cordons de CRS qui ont empêché des pèlerins, dont votre serviteur, de se rendre à cette messe qui était autorisée par la loi.
Tout à fait, tout à fait. Alors oui, pour Pierre-Marie Bonneau, en fait, c'est très simple. Vu que c'est une émission purement audio, moi, ce que je vous invite à faire pour éviter les échos, c'est tout simplement parler comme si vous étiez au téléphone. Pas besoin du haut-parleur. On vous entendra beaucoup mieux, je pense. Et de toute façon, il n'y a pas la caméra,
Il n'y a pas
donc.
la caméra, donc.
Oui, à condition que je sache comment tout ça se fait, cher ami.
Ah, petit conseil, enlevez les écouteurs. Ah ben il est parti. Il est parti. Bon, c'est pas grave, il va revenir, il va revenir. Vous inquiétez pas, c'est
Il
les
n'a
aléas
pas
du
pu,
direct.
contrairement à moi, je ne suis pas plus doué que lui, mais moi j'ai pu faire un test avant que lance l'enregistrement.
Bah tout à fait. Bah c'était prévu. Mais Pierre-Marie Bonneau, il y a eu un imprévu malheureusement sur ce qui était prévu. Donc par conséquent, le test n'a pas pu être fait à temps. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il va revenir, il va revenir. Vous inquiétez pas. Ah parfait, Pierre-Marie Bonneau, vous êtes là. Ah Pierre-Marie Bonneau, oui, effectivement, c'est peut-être les écouteurs qui gênent. N'hésitez pas à enlever les écouteurs.
Enlevez les écouteurs.
Ah, un de test, vous m'entendez, Pierre-Marie Bonneau?
Un de test, vous m'entendez, Pierre-Marie Bonneau?
Je vous entends parfaitement.
Ok, il faudra juste bien couper votre micro parce qu'il y a un écho,
Je
on
vous
entend ma
entends
voix.
parfaitement.
Ok, il faudra juste bien couper votre micro parce qu'il y a un écho, on entend ma
Eh
voix.
oui, mais je ne sais pas où est le micro, donc je suis dans l'incapacité la plus absolue de couper quelque chose dont je ne sais même pas s'il existe.
C'est pas grave, je vous le couperai vous-même. Voilà, j'ai le pouvoir de le couper, il n'y a pas de souci. Là, je vous le rallume. Alors, du coup, Pierre-Marie Bonneau, donc je vous ai présenté dans l'introduction, j'ai dit que vous étiez militant chez les nationalistes, vous êtes juriste et avocat, et je vous remercie de participer à cette émission ce soir en compagnie de Pierre-Nico Anups, un autre jury.
Notre jury.
Donc j'écoute. Quelle est la que voulez-vous exactement savoir sur le contentieux et puis surtout sur les suites du contentieux qui a été initié après la décision totalement inopportune de Monsieur le maire de la ville de Verdun?
Vous anticipez beaucoup de mes questions. Vous inquiétez pas, ça, on va en parler dans la soirée. Moi, je vais juste vous poser la question qui est au final la même question qui a été posée à Pierre-Nicolas Nup, c'est vu que vous n'étiez pas là, un petit rappel, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Moi, j'ai juste envie de vous demander, est-ce que la décision du préfet de barrer l'accès à l'église, est-ce qu'elle est illégale ou légale?
Alors, s'il y a décision du préfet de barrer l'accès à l'église, la décision est a priori illégale. Je dis bien a priori parce que je n'ai pas les éléments utiles pour me prononcer là-dessus. J'ai entendu vaguement la réponse de Pierre-Nicolas et j'aurais tendance à le rejoindre parce que je ne sais pas dans quelles conditions le préfet aurait barré l'accès à l'église. Je n'étais pas sur place, d'ailleurs moi-même, et ni quelles étaient les conditions dans lesquelles sa décision est intervenue. Ce que je sais, c'est que Monsieur le maire de Verdun avait pris un arrêté qui interdisait la célébration d'une messe. Alors ça sera intéressant peut-être tout à l'heure sur le plan de la séparation de l'Église et de l'État, mais bon, c'est autre chose, et de la loi de 1905. Que cet arrêté a été annulé par un tribunal administratif. Alors, il n'a pas été encore annulé, pardon, il a été juste suspendu. Ce qui fait que personne ne pouvait se prévaloir d'un arrêté qui était privé de tous ses effets par une décision d'une juridiction administrative. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qui a motivé en droit, quelle est ce qu'on appelle, nous juristes, la base légale de la décision ou du maire ou du préfet d'interdire l'accès à la cérémonie. Et ça a un intérêt parce que ça a des conséquences au besoin de droit pénal. Quelqu'un qui interdit l'accès à une cérémonie contre les conséquences d'une décision administrative commet un délit. Et ça, c'est très intéressant.
Oui,
Oui,
il m'apparaît important de préciser quelque chose d'essentiel. Alex, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous n'accusons pas le préfet. Nous ne sommes même pas en train de sous-entendre que c'est de sa responsabilité. Ce que je suis en train de dire, parce que moi j'étais sur place, c'est que j'avais l'intention de me rendre à cette messe et je n'ai pas pu le faire pour deux raisons. D'une part, parce que les portes étaient fermées, je l'ai vérifié, je l'ai filmé, je l'ai fait vérifier. Et j'ai également eu des témoins qui sont là pour témoigner, une dizaine, à vrai dire. Les portes étaient fermées et il y avait des cordons de police qui nous empêchaient de pouvoir accéder à certaines portes. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est l'autorité qui a pris la décision de mettre ces cordons de police à cet endroit et pourquoi les portes de cette église sont fermées. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé, encore une fois, une enquête à l'IGPN. Donc, je n'accuse personne. Je dis simplement que c'est Monsieur Hazard qui, lui, n'a pas attendu la fin de l'enquête de l'IGPN, qui, vendredi, dans le journal Le Figaro, dont je suis lecteur, a déclaré que c'était de la responsabilité du préfet. Je ne fais que citer Monsieur Hazard, mais je ne donne pas un blanc-seing à Monsieur Hazard et je ne prends pas tout ce qu'il dit pour argent comptant. Ça, c'est l'enquête qui devra le déterminer.
Ouais, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Je vais redonner la parole, bien évidemment, à Pierre-Marie Bonneau. Mais en fait, selon vous, parce que effectivement, juridiquement, vous avez bien expliqué pourquoi, a priori, quelles sont les raisons qui motivent, etc. Vous avez tout expliqué. Mais en tout cas, au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi l'aspect médiatique. Est-ce que pourquoi, selon vous, une simple messe à la mémoire du maréchal Pétain a suscité un tel déchaînement médiatique et politique à l'encontre de ceux qui l'ont organisé et ceux qui ont participé?
J'ai une
J'ai une explication qui n'est pas.
C'est pour Pierre-Marie Bonneau,
C'est
là,
pour Pierre-Marie Bonneau, là, qu'elle a.
Ah, on va pas s'en sortir. C'est pour Pierre-Marie Bonneau, la question, Pierre-Nicolas Lips. Désolé d'avoir coupé le micro, mais c'est à cause de l'écho.
Mais c'est à cause de l'écho.
Alors, de façon très simple. Tout d'abord, une messe n'est pas à la mémoire de, elle est pour le repos de l'âme de. Donc, il me semble qu'il est normal que des Français célèbrent un office pour le repos de l'âme de ces soldats qui, héroïquement, pendant plusieurs mois, dans la boue, dans le froid, dans la pluie, ont défendu ce que la chanson appelle la porte de la France, Verdun. Et ils l'ont fait sous le commandement d'un général à l'époque qui deviendra maréchal de France, qui deviendra maréchal de France d'ailleurs juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est à l'époque le général Pétain, qu'on peut appeler maréchal Pétain sans aucune crainte, puisqu'il était maréchal bien avant les événements tragiques de 1940. Je ne vois pas en quoi le fait que des Français demandent une messe pour le repos de l'âme de celui qui a été le héros de Verdun, ainsi que de ses soldats, pourrait scandaliser qui que ce soit. Je rappelle qu'après le décès du maréchal en 1951, pendant plusieurs années, les chefs de l'État français, chaque 11 novembre, ont fait fleurir sa tombe sur l'Île-Dieu. Jusqu'à ce que, je crois, Jacques Chirac mette fin à cet hommage. Je ne comprends pas cette décision. Je ne comprends pas cette décision en tant que Français, et je ne comprends pas cette décision en droit. Maintenant, nous savons très bien que dans la France d'aujourd'hui, le droit, ce qu'ils appellent l'état de droit, n'est plus respecté par qui que ce soit, et surtout pas par les autorités. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un état idéologique. Nous sommes dans un état non plus de droit, mais d'idéologie. C'est-à-dire que ce qui remplace le respect de la règle de droit, c'est la conformité à une idéologie dominante. Et cette idéologie dominante condamne comme le crime le plus absolu l'action du gouvernement du maréchal Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette condamnation efface tout le reste d'une façon qui apparaît particulièrement disproportionnée, que j'aurais tendance à qualifier de parfaitement totalitaire. Et je crois que c'est plus à cette logique-là qu'a obéi la décision de M. Samuel Azar, qu'à une logique de respect du texte et des pouvoirs que lui donnait sa fonction de maire. Voilà.
Oui.
Allez-y, mon cher Pierre Nicolas, parce que vous vouliez prendre la parole sur cette question.
Une partie de l'explication, parce que, évidemment, ce que dit mon confrère Pierre-Marie, mon ami, est évidemment très intéressant, et c'est évidemment vrai. Mais pour parler plus directement, et je vais faire attention, parce que dès lors qu'on aborde ce genre de sujet, on marche sur des œufs. La véritable raison pour laquelle beaucoup de gens, des pouvoirs publics, détestent le maréchal Pétain, ce n'est même pas sur la question de l'antisémitisme, puisque cette question peut encore, du moins je l'espère, être discutée. Mais si cette question est susceptible d'être discutée, il y a une question qui ne se discute pas, c'est le caractère fondamentalement anti-maçonnique du gouvernement de Vichy, de l'État français et du maréchal Pétain qui a interdit la franc-maçonnerie. Et il se trouve que cet état de fait voue une haine tenace de la part de ces gens à l'encontre non seulement du gouvernement de Vichy, mais du maréchal Pétain. Et cette explication-là, elle n'est peut-être pas politiquement correcte, mais je trouve qu'il est très important de la souligner. C'est ça qu'il reproche en réalité à Philippe Pétain. C'est que Philippe Pétain a été le dernier Français à avoir ouvertement combattu ces forces occultes et profondément anti-françaises.
Oui, je comprends tout à fait pourquoi vous dites ça. Alors, mon cher Pierre, Maître Bonneau, et après je vous donnerai la parole aussi, Pierre-Nicolas Nup, sur cette question, au-delà de la messe, parce que voilà, la messe, vous avez expliqué, mais au-delà de ça, de manière vraiment plus générique, de manière plus générale, sans mauvais jeu de mots, est-ce que c'est illégal ou pas d'honorer la mémoire du maréchal Pétain, concrètement, pour nos auditeurs ?
Nos auditeurs.
Alors, ce n'est absolument pas illégal d'honorer la mémoire du maréchal Pétain. Absolument pas illégal. Il y a eu des décisions judiciaires qui ont rejeté toute forme de dissolution d'une association qui avait été poursuivie d'ailleurs pour cela, à la mémoire du maréchal Pétain, qui est la DMP. Je rappelle que la DMP est une association parfaitement légale, même s'il peut y avoir des discussions internes, etc., ce n'est pas le problème. Et que donc la défense de la mémoire du maréchal Pétain est parfaitement légale. Ce qui est illégal, c'est l'apologie de personnes condamnées pour crimes de collaboration, etc. etc. Défendre la mémoire du maréchal Pétain, ce n'est pas faire l'apologie de la politique de collaboration pour laquelle il a été certes condamné en 1945, mais dans des conditions qui font que effectivement on peut considérer qu'il ne s'agissait pas d'un procès non seulement équitable, mais d'un procès non seulement digne, tout simplement, et juste. La mémoire du maréchal Pétain peut parfaitement être défendue en France aujourd'hui. il n'y a pas d'illégalité à défendre la mémoire du maréchal Pétain. Il y aurait une illégalité à faire l'apologie de la politique de collaboration en elle-même. Voilà. Mais ce sont deux choses totalement différentes, évidemment.
Oui, je rappelle que la défense du maréchal Pétain et de l'action du gouvernement de Vichy est quelque chose de légal et de nécessaire à la tenue du débat démocratique et à la recherche de la vérité historique. Et c'est un arrêt dont j'ai beaucoup parlé, et il est important de le marteler, c'est un arrêt de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui a rappelé à la France par une condamnation que la défense du maréchal Pétain est quelque chose de légal, c'est l'arrêt Lehi-2 et Izorni contre France du 23 septembre 1998. Donc oui, la défense du maréchal Pétain est quelque chose de légal et nécessaire, donc puisqu'elle est légale et nécessaire, nous aurions tort de nous en priver, courage on les aura et maréchal nous voilà. En revanche, oui, ce que dit Pierre-Marie est très vrai, ce qui est interdit, c'est de faire l'apologie des crimes de la collaboration et plus particulièrement l'apologie ou la négation de crimes contre l'humanité, c'est ceux qui sont définis à l'article 24 bis de la loi de Presse du 29 juillet 1881, c'est la fameuse loi qui a été modifiée en 90 par la loi Fabius Gesso. Voilà, mais les crimes contre l'humanité sont des crimes qui ont été jugés et définis par le tribunal de Nuremberg et notamment par l'accord de Londres de 1945. Je rappelle que le maréchal Pétain n'a pas été condamné pour crimes contre l'humanité. Il a été condamné, certes, pour intelligence avec l'ennemi, il a été condamné à l'indignité nationale, mais en aucun cas, Philippe Pétain n'a été condamné pour crimes contre l'humanité.
Oui, c'est vrai, tout à fait, mon cher Pierre-Nicolas Nups. Alors, je reviens vers vous, Maître Bonneau. Bien évidemment, vous avez la possibilité de rebondir sur les propos de Pierre-Nicolas Nups si vous le souhaitez. Mais juste avant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à séparer le héros de Verdun, c'est-à-dire le personnage historique de 1914-1918, et le chef d'État français de 1940 à 1944. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de faire cette séparation comme beaucoup le font ?
Alors, pour des raisons historiques, non pas juridiques, absolument pas. Le maréchal Pétain a toujours agi pour protéger la France, ou du moins dans son esprit, pour protéger la France. On peut contester la nécessité de signer l'armistice en 1940, on peut critiquer sa politique, on peut contester son action, c'est un débat qui reste ouvert. Mais dans l'esprit du maréchal Pétain, il était nécessaire de faire ce qu'il a fait. Je rappelle qu'il a dit publiquement « je fais à la France le don de ma personne ». On ne peut pas être plus clair. Il l'a dit sur une émission radiophonique, il l'a dit en 1940 en disant que la décision de signer l'armistice était dure au cœur d'un soldat, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur, il l'a fait parce qu'il estimait que la situation militaire l'exigeait. Alors, c'est encore quelque chose que l'on peut discuter, c'est quelque chose qui peut être soumis au débat. Est-ce qu'en 1940, la situation militaire exigeait que l'on signe un armistice ou pas ? J'ai une opinion assez arrêtée là-dessus et je crois que l'essentiel des historiens sérieux sont assez d'accord avec moi, ou du moins que je suis assez d'accord avec eux, ne soyons pas prétentieux. Maintenant, le vainqueur de Verdun est celui qui, je le rappelle, en 1918, veut continuer la guerre contre l'Allemagne. L'armistice du 11 novembre lui semble prématuré parce que les armées allemandes occupent encore la France et il pressent le mouvement qui animera l'Allemagne quelques années plus tard, et qui portera d'ailleurs au pouvoir en grande partie le chancelier Hitler, qui est ce mouvement que l'on pourrait qualifier de révisionniste au sens que l'on donnait à l'époque à ce terme, qui est de dire « mais l'Allemagne a été poignardée dans le dos, elle n'a pas perdu la guerre, parce que quand elle a signé l'armistice, elle occupait encore le nord de la France, c'est parfaitement exact. » Eh bien, le maréchal Pétain, même si les armées allemandes étaient en déroute, voulait terminer, pardonnez-moi l'expression, le travail, et rentrer victorieusement en Allemagne avant de signer l'armistice de 1918. Donc, le traité de défaitiste, où indiquait qu'il aurait été un homme différent pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, me paraît relever d'un sophisme absolu. Le maréchal Pétain est un officier supérieur français, un maréchal français, un général français, qui voyait la défense des intérêts de la France ou de ceux qu'il considérait comme étant les intérêts de la France aussi bien pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, on peut apprécier ou ne pas apprécier son action, on peut juger qu'il a commis de graves erreurs ou juger qu'il avait raison, mais c'est un autre débat.
Merci beaucoup Pierre-Marie Bonneau pour votre réponse. Alors je vois qu'on est quand même 70, c'est ça, on est 70 personnes à nous écouter en direct. Je vous invite bien entendu comme d'habitude à mettre des pouces bleus et à partager tout simplement cette émission. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour une émission qui n'est pas à son créneau habituel. Comme quoi vous êtes assidus quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, et je suis très très fier de vous. Alors continuons, si vous le voulez bien, mon cher Pierre-Nicolas. Alors peut-être déjà que vous vouliez rebondir sur tout ce que vient de dire Pierre-Marie Bonneau.
Non, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est peut-être une liste des principales personnes qui sont issues de la collaboration et que j'ai sous les yeux, et qui est évidemment vérifiable. Je tiens à préciser que les principaux noms de la collaboration en France sont les suivants. Darlan, radical gauche. Boutillier, radical gauche. Miro, radical gauche, Bousquet, radical socialiste, Laval, socialiste, ex-SFIO, Demarquet, socialiste, Déa, socialiste, Alibert, communiste, Baudouin, communiste, Doriot, communiste, Le Méry, gauche démocratique, Luchère, gauche démocratique, Pietri, républicain de gauche, Augier, Front populaire, Belin, syndicaliste CGT. J'arrête là parce que sinon j'en aurai pour toute la nuit. Je trouve qu'il y a eu un comportement qui est particulièrement dégueulasse et qui a d'ailleurs été dénoncé, notamment au procès du maréchal Philippe Pétain. C'est que tous ces gens-là ont refilé, si j'ose dire, la patate chaude à un vieillard qui n'avait aucune ambition politique et qu'ils sont allés chercher après la débâcle contre les Allemands, alors que la France avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne qui déclare la guerre à la France, c'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne. Et ensuite, alors que certains s'étaient tous barrés à Londres, et d'autres se sont compromis dans la collaboration de manière bien plus grave que ne l'a fait le maréchal Philippe Pétain, ils se sont défaussés en le chargeant de tous leurs crimes. Et qu'au moment où le maréchal Pétain passait devant ses juges, les avocats, notamment l'avocat du maréchal Pétain, Maître Izorni, avait fait remarquer que la totalité des magistrats, juges, mais également membres du parquet, avaient tous juré fidélité au chef de l'État, avaient tous juré fidélité au maréchal Pétain et au gouvernement de Vichy. Et ce sont ces gens-là qui ont ensuite condamné le maréchal Pétain.
Oui, c'est vrai. Vous avez bien raison, mon cher Pierre-Nicolas Nups. Vous avez raison. Bah, je voulais vous rajouter une petite question. En fait, c'est super simple. C'est qu'on est totalement dans l'actualité en ce moment. C'est que le maire de Verdun, Samuel Hazard, vous en parliez rapidement, brièvement tout à l'heure, il est très excité par cette polémique. Hein, mais ça, c'est depuis Black M, j'ai envie de vous dire. C'est depuis 2016. Il est très excité par cette polémique. Il a porté plainte contre vous, personnellement, et contre le Parti de la France. Alors moi, j'aimerais savoir pour quel chef d'accusation, pourquoi il porte plainte contre vous, et c'est qui ce gars, en fait ?
Bien. Selon les écrits de son profil Facebook, il a dit qu'il porterait plainte contre le Parti de la France et moi-même, je suis cité nommément. Il y a également des journalistes qui en ont parlé, puisqu'il estime avoir été diffamé et injurié par les termes suivants. Il reproche un texte où il est mentionné comme le sale maire gauchiste Hazard, et un autre qui l'accuse d'avoir activé ses réseaux francs-maçons. Bon, eh bien, d'une part, je ne vois pas en quoi activer des réseaux francs-maçons, qui est une forme, je dirais, sociale admise et considérée comme respectable en République française, en tout cas légale, je ne vois pas en quoi il est diffamatoire d'appartenir à cette organisation, mais je constate dans ce cas-là, puisque M. Hazard considère que l'accusé d'être franc-maçon est quelque chose de diffamatoire, eh bien, je constate que nous avons, lui et moi, malgré tout nos points de divergence, nous avons au moins un point en commun. C'est une certaine défiance vis-à-vis de cette organisation occulte et profondément anti-française. Ensuite, il est vrai que qualifier un maire de sale maire gauchiste, eh bien, ce n'est peut-être pas forcément très, très sympathique, mais disons que ça ne dépasse pas, selon moi, le cadre de la liberté d'expression et surtout de la polémique politique, qu'il a lui-même déclenché, et si j'ose dire, dont il est le grand architecte, puisque c'est lui qui a déclenché cette polémique. Si jamais il avait, pardonnez-moi l'expression, mais fermé sa grande bouche, eh bien il y aurait eu 20 personnes qui auraient tenu une messe qu'ils tiennent depuis plus de 51 ans, personne n'aurait été au courant, moi-même je n'aurais pas été au courant, et personne n'aurait parlé de cette affaire. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas manquer de respect à des pèlerins, on ne peut pas dire que l'on va... que l'on ne respectera pas les décisions de justice si elles nous sont défavorables, qualifier des personnes de lâches, de néo-nazis, de nostalgiques du gouvernement de Vichy, et ensuite ne pas subir quelques pics de la part de ces personnes. Et en tout état de cause, eh bien moi, je n'ai pas à m'en justifier puisque je n'ai tenu aucun de ces propos. Donc moi, je ne me sens absolument pas concerné par cette plainte.
Ok, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu. Alors maintenant, je vais donner plutôt la parole à Pierre-Marie Bonneau. Bien sûr, Maître Bonneau, vous avez la possibilité de rebondir sur tout ce que dit Pierre-Nicolas Nupes en plus de mes questions habituelles. En fait, c'est super simple ma question. C'est que là, on est en 2025, d'accord ? La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 80 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. La question, elle va être toute bête. Est-ce que c'est encore pertinent en 2025 de se référer au maréchal Pétain ?
Alors, oui. Se référer au maréchal Pétain, ce n'est pas se référer à la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes empêtrés dans un marais marigot administratif qui rappelle celui de la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire que nous avons une multiplication de mesures administratives toutes plus alambiquées les unes que les autres, compliquant finalement la vie quotidienne des Français plutôt qu'autre chose. Sans aucun résultat. Aucun résultat. Alors, allez-vous me dire, mais où est le rapport avec le maréchal Pétain ? Il est essentiel. Il est absolument essentiel. Je lisais très récemment encore un ouvrage sur le maréchal, et c'était un ouvrage qui... disait Vichy aujourd'hui, ou que reste-t-il de Vichy ? Je n'ai pas le terme exact en tête. Et cet ouvrage listait les modernisations, les réformes essentielles qui sont dues au gouvernement de Vichy. La retraite des vieux, la circulation routière, la création d'un corps unifié de police, la modification de la procédure criminelle aux assises, la création d'un menu du jour, l'obligation d'afficher les prix, le salaire minimum, etc., etc., etc. Le gouvernement du maréchal Pétain, malgré la difficulté de la période, deux tiers du territoire national étaient occupés par l'ennemi, nous avions signé un armistice, qui n'est pas un traité de paix, je le rappellerai d'ailleurs, pour mettre fin au combat, pour mettre fin à cette hémorragie de sang français. Et malgré ces conditions, quand même beaucoup plus défavorables que celles que l'on connaît aujourd'hui, nous avons eu un gouvernement qui a relancé la natalité, qui a pris des mesures de modernisation, dont l'essentiel d'entre elles ont été validées par le pouvoir issu du comité de libération, du pouvoir gaulliste, pour permettre l'essor de la France des 30 Glorieuses. Et ça, il faut le rappeler. Et ça a été fait autour de la devise « Travail, famille, patrie » et autour de cette volonté de tourner une page, celle de la démocratie représentative, celle de la démocratie parlementaire, qui avait amené la France à finalement connaître l'échec tragique de la campagne de 1940. C'est-à-dire que le gouvernement maréchal Pétain avait pris acte des échecs connus par la France à raison de son régime politique, à raison de son organisation administrative, pour réformer cela. Et ça, nous avons le devoir de le défendre. Le dernier chef d'État qui a eu un pouvoir réel en France, pouvoir qui était celui de Louis XIV ou de Napoléon Bonaparte, sous le Premier Empire, ben c'est le maréchal Pétain. Et c'est un des plus grands réformateurs français qui ait existé. Alors bien sûr, certaines de ces lois sont critiquables et n'ont pas été validées après la libération en 1944-45. D'accord. En pourcentage, ça ne fait pas quand même grand-chose. L'essentiel des lois ont été validées et nous avons la démonstration de ce qu'un pouvoir fort et responsable peut, dans les situations les plus tragiques qu'il soit, avoir un effet bénéfique. Et ça, je crois qu'il faut le souligner et le rappeler. Le maréchal est actuel. On chantait à l'époque « Maréchal, nous voilà ». Moi, j'aurais tendance à chanter « Maréchal, toujours là ».
Pas mal du tout, Maréchal, toujours là, c'est pas mal du tout. Effectivement, vous avez raison, vous avez raison. Et même, j'ajouterais, je crois que l'INSEE aussi vient de Pétain, du Maréchal Pétain. Il me semble aussi que le CNC vient du COIC et le COIC vient du Maréchal Pétain. Et si je me trompe pas, et le côté, vous savez, en plus du menu du jour, il y a le côté licence 1 à 4, licence 3, licence 4, licence restaurant, qui sont critiqués aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était pas trop mal parce que c'était trop du copinage avec les préfets, c'était un bordel avant, tout simplement. Et la retraite par répartition, qui aujourd'hui est une catastrophe, était tout à fait pertinente à l'époque où il y avait 3 travailleurs pour un retraité. 4 travailleurs même, 4 travailleurs pour un retraité. Bon, aujourd'hui la tendance c'est un peu inversé.
Je pense que vous êtes d'accord là-dessus.
Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on a quoi ? 1,75 travailleurs pour un retraité ? Enfin, je ne sais plus à combien on est, même pas 2.
Et encore,
même pas deux.
Dans les actifs, tu as également les chômeurs. Bon, non, pour synthétiser plus brièvement, pour répondre à ta question, je serai beaucoup moins long que Pierre-Marie. Je dirais simplement l'utilité. Mais c'est tout simplement la recherche de la vérité historique. Je vois beaucoup de gens qui s'offusquent, par exemple, contre une expression qu'on appelle le révisionnisme. Alors, je rappelle que juridiquement, le révisionnisme, ce n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est la contestation de crimes contre l'humanité. Et on a l'impression que vouloir réviser l'histoire, c'est quelque chose de presque criminel. Mais je rappelle que le processus même de la recherche historique, cela consiste systématiquement à tout réviser et à émettre des hypothèses. À partir de quand on considère que réviser l'histoire, à partir de quand on considère que émettre des hypothèses et faire de nouveaux travaux, c'est quelque chose qui doit être criminalisé. Je ne connais ça que dans les dictatures, moi, personnellement.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, pendant que nous discutions, je me suis permis de faire un petit sondage auprès de nos auditeurs, parce qu'on est quand même 85. Alors, merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous écouter dans un créneau qui n'était pas prévu, avec une émission qui est uniquement audio. Ça nous fait plaisir, sachez-le. Alors, c'est très simple. Le sondage était, est-ce que le maréchal Pétain est un héros de la nation ou un traître à la nation ? Vous avez été 90% à voter un héros de la nation et 10% à voter traître à la nation. Avec un commentaire qui était, il a collaboré avec les Allemands, donc c'est un traître à la nation. Bon, après, je suis un peu pragmatique, vous savez, j'ai une logique mathématique.
Nous aurions bien aimé les Ivoires.
C'est vrai. Bon, en fait, moi, j'ai une logique un peu mathématique qui est de dire on a 4 fois moins de morts, même plus de 4 fois moins de morts dans la Seconde Guerre mondiale par rapport à la Première Guerre mondiale, d'accord ? Et alors que la Seconde Guerre mondiale est un conflit qui, objectivement, est bien plus meurtrier que la Première, à l'échelle européenne et internationale. Donc, moi, logique purement pragmatique, purement mathématique, je me dis que si mes ancêtres ont pu survivre à cette époque et que donc je peux être là et probablement vous aussi, bah c'est parce qu'on a évité des conflits entre guillemets inutiles, des conflits qui nous auraient été très coûteux en termes d'hommes tout simplement. Parce que je pense pas que c'était très pertinent de continuer la bataille, de continuer la guerre. Je ne pense pas que ça aurait été pertinent, on aurait juste eu des morts et des massacres. Enfin c'est mon opinion après tout. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Allez-y Pierre-Nicolas, vous allez réagir.
De manière beaucoup plus synthétique, il suffit simplement de se donner la peine d'aller lire la fiche Wikipédia, je pense que ça c'est dans les cordes de tout le monde, d'aller lire la fiche Wikipédia très consensuelle vis-à-vis du consensus historique. Il faut lire la fiche Wikipédia du maréchal Pétain pour s'apercevoir que le maréchal Pétain était un militaire de carrière qui a connu au moins 3 conflits contre, vulgarisons à l'extrême, des Allemands. Et je ne crois pas qu'à 84 ans, il soit subitement devenu germanophile alors qu'il a passé toute sa vie à lutter contre l'Allemagne. Alors dire que Pétain a collaboré, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé les y voir, tous ces gens-là. Il était bien évidemment plus compliqué de résister en France, qui était occupée et vaincue militairement par les Allemands, qu'à Londres, bien à l'abri avec Churchill, De Gaulle et compagnie. Ça me semble absolument évident. J'espère que je ne me retrouverai pas au tribunal pour avoir dit ça.
J'espère aussi. Et vous, justement, Pierre-Marie Bonneau, vous aussi, vous pensez que la collaboration, c'est plus faite par, j'ai envie de dire, bon, je vais pas dire compromission, mais c'est faite parce que le contexte était particulier et non pas par amour, pas germanophilie, j'ai envie de dire, par amour de l'ennemi?
Alors, je ne crois pas une seconde que la collaboration se soit faite par germanophilie ou par amour de l'ennemi. La collaboration s'est faite par égoïsme national et réalisme. Point. C'est-à-dire que la France avait été vaincue, elle avait été vaincue dans des conditions particulièrement difficiles et dans des conditions où la loyauté de notre allié britannique pouvait légitimement être remise en cause par le gouvernement français. Le gouvernement français en a donc tiré toutes les conséquences, voyant abandonné, sacrifié, et a décidé de mettre fin aux bains de sang. Je rappellerai d'ailleurs que si on rapporte sur la durée, l'armée française perd plus de monde par jour pendant la campagne de France qu'elle en a perdu pendant la Première Guerre mondiale à l'époque de la bataille de Verdun. C'est-à-dire que le mythe du soldat français levant les bras et partant en courant devant le soldat allemand, doit être combattu, combattu, combattu. C'est faux. Le français a été vaincu, mais il n'a pas été lâche. C'est la première chose à voir. Ensuite, je vous rappellerai la date de naissance du maréchal Pétain, 1856. Je vous rappellerai l'histoire du premier empire, la paix de Tilsit. C'est-à-dire que les puissances ennemies de l'empereur Napoléon font la paix avec lui, ce qui ne les empêche pas de le vaincre moins de 10 ans plus tard. Donc, l'idée de l'armistice était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Lorsque, en 1815, l'Empire, après le retour de l'empereur lors des 100 jours, est vaincu, la France est occupée. Il suffit d'aller sur Wikipédia, de prendre une carte de l'occupation de la France en 1815. Vous verrez qu'une partie est occupée par les Russes, l'autre par les Autrichiens, l'autre par les Anglais, l'autre par les Prussiens. On paie des indemnités d'occupation. Et cette occupation dure un temps, et ses troupes s'en vont, et la France retrouve sa place. Il en a été de même en 1870, 71 plutôt. 70 sont les grandes défaites impériales. 71, c'est la fin de la guerre et le traité de Versailles. Le premier de la galerie des glaces. La France est vaincue. Elle s'en remet parfaitement. Et en 1918, puis 1919, c'est le tour de l'Allemagne de signer un traité avec une occupation partielle. En 1923, la Ruhr est occupée, la Rhénanie est occupée par les troupes françaises. Ça n'a pas empêché l'Allemagne de se redresser, puisque c'est cette même Allemagne qui, en 1940, nous vaincra. Donc, signer l'armistice, ça n'a rien d'exceptionnel dans l'histoire. C'est quelque chose d'assez courant. Lorsqu'une puissance est vaincue militairement par une autre puissance, eh bien, le signe à l'armistice, elle accepte sa défaite et elle essaie de négocier le traité le moins défavorable possible. Ça n'a rien d'exceptionnel. Dans l'histoire, c'est arrivé plusieurs fois. Et ce qu'a fait le maréchal, avec d'ailleurs l'appui de l'essentiel de l'état-major français, je rappellerai l'appui du général Weygand et de bien d'autres, eh bien, c'est signer l'armistice avec un vainqueur militaire. Ce même maréchal de France a été ambassadeur, rappelons-le, dans l'Espagne de Franco en 1939. C'est là que le gouvernement de la République vaincue est allé le chercher. Si un ambassadeur a réussi à négocier la neutralité d'un Franco, qui pourtant avait toutes les raisons du monde de nous en vouloir, puisque nous avions, au-delà du raisonnable, soutenu la République bolchevique criminelle d'Espagne contre son gouvernement national, avant de nous rendre à l'évidence et de considérer que ben, finalement nous avions fait le mauvais choix. Nous avions envoyé le maréchal Pétain pour, pardonnez-moi l'expression, réparer les pots cassés. Non seulement il a réparé les pots cassés, mais il a obtenu la neutralité de Franco, qui ne s'est pas allié, alors qu'il aurait eu toutes les raisons de le faire, à l'Allemagne hitlérienne pour participer au dépeçage de la France. Il me paraît difficile dans ces conditions-là, sous l'éclairage de l'histoire précédente et puis de son action en Espagne, de considérer que le maréchal Pétain aurait agi par germanophilie et voulu trahir les intérêts de la France. Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'on oublie quand même que bon bah voilà, l'axe c'était quand même Mussolini au sud-est, on oublie aussi qu'il y avait Franco au sud-ouest. Donc oui, ça aurait pas voilà, même si la France avait quand même tenu, on va dire, le 1v1 contre l'Allemagne, ce que je ne crois pas trop hein, personnellement, mais même en admettant, bon, la France aurait été très vite encerclée. Donc c'est une analyse quand même très intéressante. Effectivement, la capitulation du maréchal Pétain, je pense dans le contexte, se comprend. D'ailleurs, Pierre-Nicolas Nupes, j'avais juste quelque chose. Pourquoi? En fait, Jean-Marie Le Pen, d'accord, j'ai retrouvé une déclaration de Jean-Marie Le Pen, excusez-moi, sur TF1 le 21 février 2018. Donc Jean-Marie Le Pen nous dit sur le plateau de TF1, le maréchal Pétain n'était pas un traître. Il faudrait en effet, pourquoi pas, le réhabiliter. Il le mérite. Le vainqueur de Verdun n'a pas commis, selon moi, d'actes contraires à l'honneur en ce qui concerne la France et son sort. Est-ce que, comme toujours, vous partagez l'opinion de notre fameux menhir?
Moi, je partage totalement l'opinion de Jean-Marie Le Pen et je n'ai rien à ajouter.
Et ben voilà. Et ben c'était rapide. C'était rapide. C'était rapide. Est-ce que vous, Pierre-Marie Bonneau, quelque chose à rajouter? C'est quand même beau que le fondateur du Front National, donc Jean-Marie Le Pen, tienne la même ligne que nous sur le maréchal Pétain. C'est beau, c'est beau. Ça change de sa fille.
Sa fille.
Oui, tout à fait. Ça change énormément hein, sur ce point.
Parce qu'elle est inculte. Moi,
je rappellerai une chose, c'est qu'il y a quelques mois ou quelques années, je n'ai plus la date exacte, ont été publiés dans les archives françaises des conversations enregistrées par les Allemands qui sont très intéressantes. Ce sont les conversations et les négociations durant la signature de l'armistice dans la forêt de Rotonde par la délégation française, donc la délégation des vaincus, en juin 1940. Je trouve ces militaires français empreints d'une dignité, d'un courage absolu. J'entendais encore la voix ferme du général Anziger dire à plusieurs reprises « non, ça c'est inadmissible ». Si vous maintenez ça, ben, nous ne signerons pas et adviendra que pourra. Mais nous ne signerons pas parce que c'est contraire à l'honneur. Et les Allemands, sur plusieurs points, ont convenu que, effectivement, c'était des mesures contraires à l'honneur et ont accepté de ne pas livrer les avions, de ne pas livrer beaucoup de mesures. Donc, les Français, les militaires français sont allés négocier cet armistice. Ils sont allés avec un certain courage, ce n'était pas évident. Ils étaient vaincus, ils ne savaient pas ce qui se passerait. Et malgré l'écrasante disproportion des forces et leur vulnérabilité, ben, ils ont été courageux, ils ont su dire non quand il fallait dire non. Moi, j'ai une réflexion d'ordre plus général. J'ai du mal avec le terme de guerre du droit. Quand on fait la guerre, c'est pour continuer, selon la phrase de Clausewitz, la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est pour poursuivre des buts nécessairement égoïste. Égoïste au sens nationaliste du terme, au sens national du terme. Des buts de défense de l'intérêt de sa nation. Je discute sur le sort de telle colonie, le sort de tel territoire, le sort de telle restriction industrielle avec mon voisin, et nous ne parvenons pas à nous accorder. Je suis étouffé politiquement, économiquement, par ce voisin. Eh bien, la confrontation armée devient nécessaire. Mais ça, ce n'est pas le droit qui est protégé, ou du moins, ce qui est protégé, c'est le droit de chacun, c'est-à-dire la vision de chacun. La guerre de 100 ans est vue de façon totalement différente, que l'on soit britannique ou français. Les campagnes d'Écosse, de même. Et il en est de même de toutes les guerres. Lorsqu'on commence à me parler de guerre du droit, cela signifie que c'est une guerre qui est faite pour quelque chose d'abstrait, pour le droit, et que nécessairement l'un des camps serait le bon camp et l'autre serait le mauvais camp. J'ai du mal à admettre qu'un gouvernement puisse, pour une chose abstraite, sacrifier sa population. Le but d'un soldat, c'est de protéger le territoire national et de lutter pour l'intégrité de celui-ci. C'est-à-dire que tant que le soldat est capable d'assumer cette mission, son sacrifice est nécessaire et acceptable. C'est-à-dire que le fait que chaque jour, des centaines de Français tombent au front pendant la guerre de 14 pour protéger le territoire national contre la ruée des troupes allemandes du Kaiser était légitime et nécessaire. Par contre, à partir du moment où, pour des raisons de défaite militaire, hélas, l'armée française n'est plus capable de protéger le territoire national, et que de toute façon, quels que soient les sacrifices consentis, quel que soit le nombre de veuves par jour, quel que soit le nombre de mères qui perdront leur enfant par jour, eh bien, le territoire national sera occupé. Est-ce qu'il est plus raisonnable de mettre fin à l'hémorragie? Ou est-ce qu'il est plus raisonnable de laisser se continuer cette hémorragie qui n'aboutira à rien d'autre sinon
à aggraver le deuil, à rajouter de la misère sur la peine et de la souffrance sur la souffrance, au prétexte que l'on défend le bon droit, une espèce de droit absolu, qui serait tellement essentiel que finalement il viendrait par-dessus même le droit de l'existence de la nation et justifierait le sacrifice des meilleurs de ses fils pour un but totalement abstrait et étranger à l'intérêt de la sauvegarde du territoire national. C'est ça la question de l'armistice. Est-ce que l'armée française devait capituler ou s'enfuir et laisser les Allemands occuper la totalité du territoire en se réfugiant au besoin dans les colonies? Mais avec quelle armée, quelle industrie, quelle force, quelle fabrique d'armement, quelle fabrique d'avions, etc. Personne n'y a répondu à cette question. Ou est-ce qu'il était mieux de faire ce que les puissances autrichiennes ont fait avec l'empereur Napoléon, de ce que l'Allemagne ou la France ont fait l'une envers l'autre durant tout le XIXe siècle, c'est-à-dire de signer l'armistice en mettant fin à une bataille qui, de toute façon, était militairement perdue? C'est ça la question. Et je crois que c'était la seule question à l'époque qui avait une importance. Et cette question était à mettre en rapport avec le comportement de l'allié. Je rappelle que le 28 juin 1940, alors que l'armée française, commandée alors par le général Weygand, tente de stopper la rue allemande sur la Lys, avec l'aide de l'armée belge, eh bien, le front se disloque parce que, sans prévenir personne, les Anglais rembarquent vers Dunkerque pour sauver ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire leur armée professionnelle. Mais je comprends l'égoïsme anglais. Mais comprenant l'égoïsme anglais, je pense être en droit d'exiger que les autres comprennent l'égoïsme français. Et c'est-à-dire le but de protéger ce qui reste encore à protéger, un peuple, une nation, et d'essayer de mettre fin à l'hécatombe qui était en cours. Hécatombe qui était devenue totalement inutile.
Merci beaucoup, maître Bono, pour votre réponse, qui est très intéressante, tout à fait. Ah oui, alors, mon cher Pierre-Nicolas, je sais que la question est tatillonne, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les milieux. C'est vrai ou pas, alors, que Pétain a sauvé des Juifs français et que l'occupation en France déplore moins de pourcents de Juifs exécutés que par rapport aux autres pays européens qui étaient occupés par l'Allemagne?
Oui. La question est tatillonne, mais ça me fait rire parce qu'elle n'est pas posée dans le même sens que la façon dont elle m'a été posée à plusieurs reprises ce fameux samedi 15 novembre 2025. Toi, tu me la poses de façon tout à fait honnête et sans arrière-pensée en réalité. C'est une véritable question qui devrait appeler à un débat libre à ce sujet. Et je rappelle que même demander un débat libre à ce sujet était, disons, avant l'arrêt Gollnisch, quelque chose de très dangereux, puisque une fois sur une autre question, une question qui touche à celle-ci, qui n'est pas tout à fait la même, on avait posé une question à Bruno Gollnisch, tu connais Bruno Gollnisch, pour rappel, c'est l'ancien vice-président du Front National, et c'était censé être le dauphin de Jean-Marie Le Pen, mais malheureusement, il a perdu contre la fille renégate. Bon. Interrogé Bruno Gollnisch sur une question de ce genre, il répond je n'ai pas d'opinion précise sur la question, mais je pense qu'il appartient aux historiens de s'exprimer. Les débats devraient être libres à ce sujet. Il a été poursuivi, condamné d'abord en première instance, ensuite en appel. Il a été condamné à l'université. Rappelons qu'il est professeur de droit constitutionnel, de langue et de civilisation japonaise. Et heureusement, il a été blanchi par la Cour de cassation. À l'époque, ce n'était arrivé que 3 fois, dont l'affaire Dreyfus. Par conséquent, Bruno Gollnisch est aussi innocent que Dreyfus. Mais avant la fin de cette péripétie juridique, il y avait un débat qui consistait à savoir si, oui ou non, on avait le droit de demander des débats libres sur cette question. Bon, ben, je suis ravi de pouvoir demander un débat libre sur cette question, puisque le débat ne l'est pas. On le voit récemment avec l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt Zemmour, qui a cassé une relaxe de l'ancien candidat à la présidentielle que nous avons soutenu, puisque Éric Zemmour avait déclaré qu'il avait effectivement sauvé les Juifs français. Bon, je ne partage évidemment pas cette opinion, quoiqu'il est interdit de le faire apparemment, Éric Zemmour s'est de nouveau pourvu en cassation. Le débat est toujours en cours. C'est un sujet qui est malheureusement assez casse-gueule. Alors, je me contenterai de dire que je respecte la loi, que je ne conteste rien et que j'y crois à fond. Voilà.
Ah, bah ça, c'est beau. Moi, j'aime bien le fait d'être passionné par le fait de ne pas aller en prison. Ça, j'aime bien. C'est une passion qu'on a en commun. Alors oui, mon cher Pierre-Marie Bonneau, moi j'ai remarqué dans énormément de commentaires que j'ai pu recevoir sur notamment le reportage que Pierre-Nicolas Anups a fait, ou sur d'autres vidéos que j'ai pu faire dans FF and Curious, on parle beaucoup du maréchal Pétain, et le commentaire qui revient le plus systématiquement, c'est « La bataille de Verdun a été gagnée grâce à Nivelles et à Castelnau, absolument pas grâce à Pétain, qui n'aurait joué qu'un rôle extrêmement mineur. » Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? Ah, excusez-moi, j'arrive pas. Ah oui, c'est à vous. Vous devez appuyer sur. Vous devez ouvrir votre micro, Pierre-Marie Bonneau. Excusez-moi.
C'est ouvert, c'est bon ou pas?
C'est bon.
Alors, effectivement, la situation est complexe. D'abord, qui c'est qui a promu Castelnau? C'est Pétain. Premièrement. Deuxièmement, qui c'est qui défend Verdun? C'est Pétain. Qui c'est qui gagne la bataille de Verdun à la fin? C'est Nivelles. Oui. On verra d'ailleurs les conséquences des offensives Nivelles en 1917, un an après. Je rappellerai que dans les portraits des généraux français de la guerre de 14, très souvent, les portraits édités après la victoire, Nivelles ne figure pas parce que, effectivement, son rôle lors des grandes offensives de 1917 est plus que contestable. Et Nivelles, c'est vrai, est celui qui fait reculer à la fin les Allemands à Verdun. Mais celui qui les a arrêtés, c'est Pétain. Et avant de faire reculer quelqu'un, il faut déjà l'arrêter. C'est-à-dire, celui qui gagne la bataille défensive de Verdun, c'est clairement le maréchal Pétain. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Celui qui, ensuite, une fois que l'offensive allemande a été brisée, s'est essoufflée, reprend le terrain perdu et gagne la fin de la bataille de Verdun, c'est Nivelles. Celui qui a succédé à Pétain, oui. Personne ne le conteste. Alors évidemment, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et on peut essayer de dire ben, on va cacher l'hommage au maréchal Pétain, qui est le vainqueur de Verdun, en se focalisant uniquement sur le vainqueur de la bataille finale de Verdun, celui qui a reconquis le territoire perdu. Mais encore une fois, avant de conquérir un territoire perdu, il faut empêcher que l'ennemi puisse continuer encore au plus loin et il faut l'arrêter. Celui qui a su l'arrêter, c'est clairement le maréchal Pétain. Ça sera un chef humain et qui sera celui qui, en 14-18, mettra fin aux révoltes des soldats français contre des conditions de vie et c'est vrai, une politique d'offensive à outrance qui s'asseyait parfaitement sur... la dignité la plus élémentaire du soldat français. Mais c'est une, j'allais dire, chose assez habituelle chez nos amis démocrates, radicaux et autres, que de considérer que, ma foi, le citoyen français doit être protégé dans ses droits, mais peut-être moins dans sa vie et dans son existence et son droit au minimum de respect. Ça, c'est une certitude, oui.
Merci beaucoup, mon cher Maître Bonneau, pour votre réponse. Toujours aussi efficace, hein, si j'ose dire. Alors, mon cher Pierre-Nicolas, vous avez esquivé la première balle avec brio. Est-ce que vous arriverez à esquiver la deuxième? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires actuellement qui disent « Quand on voit l'invasion africaine que nous avons, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu qu'on soit envahi par les Allemands ?» Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs?
Eh bien, je répondrais tout simplement qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Bon, je pense effectivement qu'il aurait été assez peu probable que dans le monde politique de l'époque, qui était ouvertement une société, un État raciste, Hitler dans Mein Kampf parle bien de l'État raciste, c'est revendiqué, ce n'est pas une invective ni un jugement de valeur. Eh bien, je pense qu'il n'aurait pas permis une telle chose d'arriver, c'est évident. Mais gardons-nous bien de dire de dire que ça aurait été une meilleure chose, puisque là, nous nous mettons sous le coup de la loi. Après, en votre fort intérieur, chers amis, vous êtes libres de penser encore pour le moment ce que vous voulez. Pour l'instant.
Pour l'instant, pour l'instant. Alors vous savez, ma dernière question, parce que j'avais une question que j'avais préparée, mais finalement, on y avait déjà répondu plus tôt. C'était, est-ce que le régime de Vichy est à l'origine de lois toujours en vigueur aujourd'hui? Eh bien, on y a répondu. Voilà, le menu, comment on appelle ça, le menu du jour. La licence 4. Voilà, la licence 4, l'INSEE, la retraite par répartition, plein de choses.
La retraite par répartition.
Voilà, énormément de choses, énormément de choses.
Le code de la route.
Le code de la route aussi?
La police nationale.
Ah, la police nationale aussi, je savais pas. Il y en a pas. Il y en a un sacré paquet.
C'est une création vichyste.
Ah ouais, ok. Ah ouais, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. C'est assez fou, c'est assez fou. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, la question que j'aimerais poser d'abord à Pierre-Marie Bonneau et après Pierre-Nicolas Nup aura la parole sur cette même question, c'est est-ce que vous pensez qu'il soit essentiel de transmettre la vérité face à cette propagande, finalement, ce mythe résistentialiste hein, qui a été mis en place pour promouvoir la création de la Ve République? Est-ce que vous pensez qu'il est essentiel de transmettre la vérité sur le maréchal Pétain et son héritage aux jeunes générations? Jeunes générations qui, je précise, sont de moins en moins préoccupées justement par le gaullisme et par la diabolisation du maréchal.
Alors, oui, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel parce que, justement, il nous faut ramener les choses à l'aune de la réalité actuelle. Je ne sais plus quel est cet homme politique issu de LFI, ce député, son nom m'échappe, vous me pardonnerez, à qui on avait demandé qui était Pétain, qui savait vaguement que oh, ça doit être un raciste. Voilà. Bon. On ne peut pas accepter que l'histoire de France, en France, soit réduite à ça. Oh, ça doit être un raciste. L'histoire de France, elle ne s'écrit pas à l'aune des beuglements des rappeurs et de la même jaune de touche pas à mon pote de la génération Mitterrand. Elle existe. Il faut que les jeunes Français l'apprennent. Et pour qu'ils l'apprennent, la période maréchaliste doit être connue parce que justement, c'est une des dernières périodes où il y a eu un travail de fond qui a été fait. Je vais répondre à une question qui était un peu piégeuse et à laquelle mon ami Pierre-Nicolas Nups a très bien répondu il y a quelques minutes. Le maréchal Pétain a-t-il sauvé des Juifs? Je crois que la question est mal posée, très mal posée. Le maréchal Pétain a sauvé des Français. Personne ne le conteste. La France est un des pays qui a eu le moins de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale parmi les pays d'Europe, grâce à l'armistice. Il faut comparer le nombre de morts en France avec celui qu'ont connu d'autres pays vaincus par l'Allemagne, comme la Pologne, par exemple, qui, elle, n'a pas bénéficié de l'armistice. Donc le maréchal Pétain a sauvé des Français. Parmi ces Français, évidemment, il y avait des Français de toutes confessions. Voilà. Qu'après, il y ait eu une politique de restriction des droits de certaines confessions, et notamment la confession juive, personne ne l'a jamais contesté. Mais le maréchal Pétain a sauvé des Français de toute religion, de toute race, ne serait-ce qu'en préservant l'Afrique du Nord d'une invasion allemande par l'armistice, qu'en préservant l'existence d'une zone libre, etc., 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 qu'en négociant au jour le jour la baisse du nombre de prisonniers. Je rappelle que le nombre de prisonniers fait par l'Allemagne en 1940 et le nombre de prisonniers rapatriés sont incomparablement différents, mais tout simplement parce que pendant toute la période de l'armistice, le gouvernement français, celui du maréchal Pétain, a inlassablement négocié pour le rapatriement des chefs d'entreprise, pour le rapatriement des ouvriers spécialisés dans telle ou telle matière, des pères de familles nombreuses, etc., etc., etc. Et ça, c'est la négociation au jour le jour, pour sauver des Français. Des Français, et uniquement des Français. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, avec ce que nous connaissons, il n'est pas bénéfique de célébrer un chef d'État, un grand militaire de 14-18, qui, dans les conditions les plus atrocement défavorables que la France ait connues, défaite militaire écrasante, occupation de 2/3 du territoire national, a pendant 4 ans œuvré pour sauver des Français. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Je trouve, ce n'est pas la première fois que je le dis, je vais le redire ici, je trouve qu'il est absolument insupportable que l'on soit obligé systématiquement de marcher sur des œufs et de craindre pour notre liberté dès lors que l'on a envie d'émettre une opinion sur une question sociale ou sur une question historique. Et je déplore qu'il n'existe pas dans notre pays qui prétend être le pays de la liberté, puisque c'est le premier mot qui est dans le triptyque de nos valeurs républicaines, eh bien, je déplore qu'il n'existe pas un premier amendement qui protège les citoyens français de l'expression de leur opinion.
C'est vrai, on peut le déplorer. Non, mais c'est vrai. Bah, la liberté d'expression en France est quand même vraiment restreinte, hein, que ce soit la liberté de la presse ou la liberté d'expression de sa population, des individus. Je pense qu'on est quand même assez d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, on nous l'avait réclamé, ça fait longtemps qu'on nous réclame une émission sur le maréchal Pétain. Il manque plus que la chronique historique de Scipion de Salm sur justement le maréchal Pétain. Et je pense qu'on sera vraiment complet, exceptionnellement. Cette semaine, vous savez, d'habitude, au Forum du Parti de la France, on parle des actualités de la semaine. Sauf que là, on va pas le faire pour une raison très simple, c'est que bah, jeudi, il y a un bistrot du Parti de la France. Et le bistrot du Parti de la France, jeudi, on parle des actualités. Donc ça ferait vraiment redondant, ça ferait vraiment doublon. Là, on a décalé notre Forum du Parti de la France. Donc on va pas faire deux fois les actualités dans la même semaine, ça n'aurait juste aucun sens, tout simplement. Donc l'émission sera un peu plus courte que d'habitude. 1h15, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas déconnant. Voilà, Pierre-Marie Bonneau, Pierre-Nicolas Nupes, deux juristes ont abordé ces sujets quand même, voilà, ce sujet piquant, et qu'il a été très très bien traité. Il est traité avec une certaine justesse, avec un certain amour, avec voilà, un certain patriotisme que j'admire beaucoup. Donc Pierre-Marie Bonneau, je vous remercie très très franchement. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, mais je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, et je le répète encore une fois, Maréchal, toujours là.
Courage, on les aura.
Et ben voilà, Pierre-Nicolas Nupes a dit son mot de la fin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. 88, faire failler un signe du destin, mais on est 88 spectateurs actuellement. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, super important. Partagez-la pour ceux qui n'ont pas eu la chance comme vous d'être en direct. Vous toujours pensez à ceux qui n'ont pas pu être là. Voilà, pensez à eux, c'est très important. N'hésitez pas à partager l'émission. Vous pouvez adhérer au Parti de la France. Et évidemment, il y a le lien vers Jeune Nation dans la description. Hein, le parti, ouais, Pierre-Marie Bonneau, les nationalistes. Ça, c'est évident, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Quant à moi, bah, bon courage, hein, Pierre-Nicolas, pour tous vos déboires judiciaires et Pierre-Marie Bonneau pour le travail que vous avez à abattre, bien entendu.
Et pour l'instant, je n'ai aucun déboire judiciaire, mon cher ami.
Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous jeudi pour un bistrot du Parti de la France. Petite annonce, cependant. Alors, la petite annonce, elle est sympa, c'est que, vous savez, il y avait un repas du 13 décembre prévu à Calais. Le repas du 13 décembre est décalé à février, où on rendra hommage à Roger Olinde. Et le 13 décembre, il y aura bien un repas, d'accord. Je crois même qu'il est organisé par Pierre-Nicolas Nupes. Il sera organisé à Verdun. Tout
simplement. Absolument, au centre-ville de Verdun.
Il sera organisé au centre-ville de Verdun. Rien que ça, les amis, rien que ça. Ça va être drôle, ça va être très 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 drôle. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi pour probablement un Fast and Curious avec Thomas Petit, c'est très probable, vous savez, hein, le policier qui a été exclu pour avoir collé l'affiche de nom de la mère aux enfants blancs. Et dimanche, pour un autre Parti de la France en direct, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, vous êtes les meilleurs.